Merci Edward Snowden. C'est donc un lanceur qui montre aussi que la bataille continue et que les conséquences peuvent en être lourdes. Alors Edward Snowden a esquissé à la fois une sorte de feuille de route de ce que devrait faire l'Europe et par exemple la France aussi. Et puis très concrètement, il a donné des indications sur ce que vit et comment on peut combattre un lanceur d'alerte. Donc c'est un petit peu là-dessus que je vais demander aux différents intervenants. Donc je vois que l'un s'est remis. Alors donc nous accueillons apparemment Fabrice Risoli et Françoise Nicolas qui nous a rejoint. Donc je vais donner la parole et sur ces questions, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur du lancement d'alerte, quels sont les obstacles et comment est-ce qu'on peut les surmonter. Alors d'abord Éric Calte d'Anticor, ensuite Françoise Nicolas, Fabrice Risoli de Crime Alt, Martin Pigeon de l'Observatoire européen des médias, Henri Tuiliez de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte et Michel Rivasi. Et je vais vous demander à chacun d'être court, parce que ça serait bien qu'il y ait aussi quelques interactions avec la salle. Donc je vais vous demander de parler en 4 minutes, 5 minutes maximum, et je serai aussi sévère que ce que la loi devrait être pour chasser les méchants et les corrompus. Éric Alt de Anticor.
Merci. Je voudrais d'abord dire quelques mots sur Edward Snowden. Edward Snowden est plus qu'un lanceur d'alerte, c'est un combattant de la liberté. Pour moi, et la Déclaration des droits de l'homme de 1946 dispose que la France accueille et protège les combattants de la liberté. Alors Edward Snowden rappelait cet épisode ridicule pour la France, où effectivement l'avion du président péruvien était susceptible d'avoir passé sur le territoire français, et cet avion était effectivement bloqué. Il ne se trouvait pas à l'intérieur, ce qui fait qu'à la lâcheté s'ajoute ce ridicule. Alors, j'ai compris hier, en regardant la télévision, que la France était de retour. Je pense que la France ne sera jamais de retour si nous ne sommes pas de retour sur nos valeurs. Et nous ne serons jamais de retour si, par exemple, nous considérons que Edward Snowden est une menace et que nous laissons à M. Poutine le soin de protéger Edward Snowden. Donc il y a là un vrai sujet pour nous tous, dont j'espère que nous pourrons nous emparer au-delà de cette soirée. Alors, sur la loi lanceur d'alerte, vous avez compris que la raison d'État ne permettait pas à cette loi lanceur d'alerte de s'appliquer. Il n'en demeure pas moins que c'est un relatif succès au regard du rapport de force qui était celui en France lorsque la loi Sapin II a été adoptée. Effectivement, ce n'était pas évident qu'on ait des dispositions sur les lanceurs d'alerte dans la loi Sapin II. La société civile y a contribué. Transparency International, Sciences Citoyennes, Anticor ont fait en sorte qu'un amendement puisse protéger les lanceurs d'alerte beaucoup mieux que ce n'était le cas précédemment. Beaucoup mieux en même temps, je veux dire insuffisamment, car effectivement, une jurisprudence reste à construire sur le sujet. On peut penser que la jurisprudence sera bienveillante, mais il y a beaucoup de termes qui devront être, je veux dire, précisés. Il y a effectivement une appréciation de la preuve au cas par cas qui sera délicate, parce que vous avez effectivement un aménagement de la charge de la preuve. Donc si quelqu'un est licencié ou si un fonctionnaire est révoqué pour avoir lancé d'alerte, eh bien, il pourra aller devant le juge administratif, il pourra aller devant le conseil des prud'hommes, il y aura un aménagement de la charge de la preuve, mais ce sera toujours une appréciation au cas par cas des preuves. De même, un lanceur d'alerte pourra aller au pénal pour dire « j'ai subi des représailles du fait de mon alerte », il devra apporter la preuve que ces représailles sont en lien direct avec l'alerte. J'ajoute que c'est un dispositif qui reste vulnérable. On aura à transposer la directive secret des affaires. Je crains que le secret des affaires ne s'ajoute aux secrets qui, aujourd'hui, ne peuvent pas être violés. Donc c'est le secret défense, secret médical et secret des avocats. Sinon, il n'y a pas de secret protégé. Hein. Sinon, à certaines conditions, on peut divulguer une information. Je crains que la loi sur le secret des affaires ne modifie un peu cet équilibre. Je note aussi qu'il n'y a pas de protection financière des lanceurs d'alerte, qu'il s'agisse pour eux d'aller en justice ou qu'il s'agisse de pourvoir à des cas de nécessité financière, parce que le Conseil constitutionnel a annulé la disposition qui, dans la loi, permettait d'accorder des subsides aux lanceurs d'alerte. Si on a une réforme constitutionnelle, peut-être pourra-t-on le réintroduire dans la loi. J'ajoute que si le lanceur d'alerte est licencié, en principe, ce sont les barèmes, en tout cas dans le secteur privé, les barèmes de la loi Macron, enfin dans les ordonnances du 22 septembre dernier qui s'appliqueront, sauf si on considère que c'est une liberté fondamentale que de lancer l'alerte. Ça pourrait être le cas, puisque l'alerte est liée à la liberté d'expression, mais il faudra que la jurisprudence le précise. Et donc, on a une situation qui n'est pas très satisfaisante, même si on est effectivement dans une situation qui est préférable à ce qui était le cas avant la loi Sapin 2. J'ajoute, puisqu'on me dit encore une minute, j'ajoute qu'il faudra aussi traiter la question des poursuites Bayon. Dire les lanceurs d'alerte ont ceci de commun avec les associations et les journalistes qui sont attaqués en diffamation et de plus en plus. Aujourd'hui, Sherpa est attaqué par M. Bolloré en justice pour diffamation. Évidemment, la probabilité pour ces associations et ces lanceurs d'alerte d'emporter la conviction du juge est très forte, mais ce n'est jamais agréable de devoir être mis en examen, même pour diffamation, et ce n'est jamais agréable de devoir défendre devant le juge dans ces conditions. Donc il y aura certainement quelque chose à inventer dans notre droit pour que cette, ce florilège de poursuites Bayon cesse. Subsidiairement, ça permettra de désencombrer les juridictions.
Merci beaucoup, Éric Halt d'Anticor, de ce point très clair et concis. Et vous avez raison de nous rappeler que nous sommes en pleine actualité, puisque ce n'est pas seulement Sherpa qui est poursuivi par l'entreprise Bolloré, mais aussi les médias, Mediapart, l'Obs et un troisième dont le nom m'échappe. Alors, Bastamac, voilà. Et il y a eu une réponse, un texte commun de tous ces médias et de ces ONG qui a été publié en même temps sur une dizaine de médias indépendants hier. Françoise Nicolas, là, vous avez été confrontée très concrètement à une cause d'alerte. Merci de prendre le micro qui est devant vous et de nous expliquer comment vous avez fait, comment vous avez surmonté ces obstacles en 4 minutes 30.
Voilà, moi je me suis retrouvée lanceur d'alerte sans m'en rendre compte, puisque je me présente Françoise Nicolas, je suis une fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et j'étais en poste à la fin des années 2008-2010 à l'ambassade de France au Bénin, où j'étais responsable d'un service, le service des bourses, missions et invitations. Et moi, je ne suis pas une héroïne. Hein. Je suis devenue lanceur d'alerte bien malgré moi, en ne faisant fondamentalement que mon travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte de graves dysfonctionnements comptables et juridiques qui impactaient directement mon service, à savoir que les dossiers étaient vides, mais imputés budgétairement. En clair, les dépenses étaient fictives. Hein. Voilà. Et alors... J'en ai référé à ma hiérarchie, sauf que c'était ma hiérarchie qui était directement à l'origine de cette organisation nouvelle, sachant qu'à l'extérieur, on prenait bien soin de me présenter toujours comme étant la responsable. Donc voilà. Donc ma hiérarchie a réagi de façon très violente, à un point tel que j'ai saisi des avocats qui eux-mêmes ont écrit à l'ambassade de France au Bénin, ont écrit à la DRH du ministère des Affaires étrangères, ont saisi des tribunaux. Ce qui fait que pendant quelques mois, j'ai référé à ces avocats de ce qui se passait au quotidien, des violences que j'endurais, qui nécessitaient parfois leurs interventions. Et je pense que ça vaut la peine de le mentionner. À un moment donné, notamment, je leur ai signalé que plusieurs témoins m'avaient rapporté qu'au cours d'une réunion de service, on s'était demandé comment on allait écarter Madame Nicolas de l'ambassade, parce que manifestement, c'était dur. Hein. Et pourquoi pas, puisqu'à même temps, le pays, on va l'en dégoûter, pourquoi pas un viol commandité. Donc, je le précise, je le maintiens, parce que plusieurs personnes m'en avaient parlé, L'expression n'est pas courante en France, encore moins au Bénin, et j'avais écrit à mes avocats en leur donnant les coordonnées de deux des personnes qui m'en avaient parlé. Donc c'est important parce que trois mois plus tard, disons que deux mois plus tard, après ce fameux mail qui est important, deux mois plus tard, devant l'inertie de ma hiérarchie, j'ai alerté mon administration centrale à Paris, mon correspondant gestionnaire, en expliquant la situation de façon très, très claire et très, très, très factuelle, et en donnant des exemples qui, avec le recul, sont très clairs quant au caractère fictif des dépenses engagées. On était en décembre 2009, je suis partie en congé, je suis revenue en janvier 2010, j'étais malade, j'étais à Faune, donc ambiance hostile, j'ai pas fait attention, et on a profité du fait que j'étais à Faune pour tenter de me tuer à mon bureau. La fin de l'agression, c'est qu'on a tenté de m'étrangler, et comme j'étais à Faune, j'ai pas pu appeler au secours, et par chance, un agent d'entretien était derrière la porte et a entendu du bruit et est intervenu.
Il y a quelqu'un qui essayait de vous étrangler?
Oui, tout à fait, et justement, c'est important parce qu'on va arriver à la raison d'État tout à l'heure.
Pas tout à l'heure, très rapidement.
Voilà. Donc bref, excusez-moi, ça me perturbe toujours d'évoquer bien tout sûr. Ça. Surtout que là, j'étais pas prévue, j'avais prévu un texte. Bon, bref. Donc, du coup, je survis, etc. Je suis éjectée. Je comprends pas ce qui se passe. J'étais très blessée. Je n'ai pas pu faire une valise. Je suis rapatriée disciplinaire en France, mutée d'office à Nantes. Je vais voir évidemment. Enfin, mon entourage contacte des avocats. J'étais incapable de m'exprimer. Je me tourne vers les tribunaux en espérant obtenir justice, au moins un minima, pour commencer la mutation d'office, enfin, etc. Eh bien, je me suis, pour faire vite, depuis 2009, j'en suis à ma 13e procédure. J'en ai perdu 9 sur 10, donc 3 restent en cours, et je suis confrontée de façon répétée à la non-application des lois et à la raison d'État, parce que évidemment il n'y a eu aucune enquête, hein, ni sur mon agression, ni sur les signalements que j'ai faits. Mon agresseur est très officiellement protégé par le ministère des Affaires étrangères, encore actuellement au motif de cette raison d'État, du maintien des bonnes relations diplomatiques entre la France et le Bénin, parce que cette dame, ma collègue de bureau, qui était un emploi fictif de l'ambassade, qui passait son temps à gérer sa fortune immobilière, dont je partageais le bureau, j'avais aucune raison de m'en mêler, a eu un enfant en mariage avec un homme politique béninois. Voilà. Donc l'histoire, elle est publique. Alors comment, donc, non-application des lois, raison d'État, j'ai 4 jugements en ce sens. Le défenseur des droits se déclare impuissant. J'ai apporté une lettre de sa part. Il dit, je ne peux rien faire. Voilà. Alors comment les surmonter? Comment surmonter ces obstacles? Eh bien, la médiatisation. Mais bon, moi, j'ai fait l'objet... ma chance a été à un moment donné de faire... l'introduction d'un livre de poche qui a été vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires en France, qui s'appelle « Les diplomates derrière la façade des ambassades de France » de Franck Renaud, édition Nouveau Monde, 2011. Vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Vous en avez entendu parler? Non. Il a été repris malgré les efforts de l'auteur. On en a parlé dans la presse d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Pas ici. Alors, comment l'expliquer? Alors, le livre de Stéphanie Gibaud, ici, est le troisième livre qui parle de mon histoire. Voilà.
Alors, rappelez le titre.
La traque des lanceurs d'alerte, édition Max Milo, donc, qui évoque une cinquantaine de cas de lanceurs d'alerte, dont le mien. Et alors, pourquoi ce peu d'intérêt médiatique, sachant que je me suis exprimée publiquement sur cette mécanique de détournement de fonds publics depuis mars 2015? Pour l'anecdote, ma première intervention publique était devant 150 journalistes, 12 caméras de télévision. C'était la première intervention publique d'Antoine Deltour également. On n'a pas eu le même succès médiatique. Alors pourquoi ce peu d'intérêt? Est-ce que ce sont les sommes en jeu finalement? Peut-être à la limite, on me demande parfois d'évaluer quelques centaines de milliers d'euros. Bon, ça va, ça vient. Ce sont des pratiques aussi de mon administration qui sont bien connues, qui font l'objet de livres, de rapports parlementaires, de documentaires. Les pratiques restent, mais les noms changent, mais personne n'a intérêt à ce que les choses ne changent. Troisième explication, peut-être, on en a parlé, Vincent Bolloré, il se trouve que c'est un ami de l'homme qui me vaut la raison d'État. Enfin, quand je dis un ami, depuis que ça m'est arrivé, à un moment donné, cet homme politique béninois était numéro 3 du gouvernement béninois. Et il a fait faire à Vincent Bolloré des affaires illégal. Donc Bolloré a été condamné il y a quelques mois. Mais enfin bon, en attendant, enfin, je ne sais pas si je suis claire sur le contexte auquel je me trouve confrontée. Et comité de soutien, alors il y a eu différentes tentatives autour de moi. Les gens étaient très vite dissuadés. Hein. J'ai un exemple très concret où pendant plusieurs mois avec un élu dont je tairai l'appartenance. On a travaillé sur la mise en place d'un comité de soutien parce qu'il nous disait « mais toute seule, vous ne vous en tirerez jamais, la France-Afrique, etc. » Parce que la puissance des réseaux France-Afrique, c'est une réalité aujourd'hui. Et puis quand au bout de quelques mois, tout était prêt à lancer, la direction de son parti politique lui a dit « mais tu veux continuer à voyager dans le monde entier, gratuitement ? Tu la laisses tomber tout de suite. » Voilà. Mais c'est un exemple parmi d'autres, ce n'est que ça. Que ça. Donc, oui, je remercie ici, par exemple, le site Passeurs d'alerte, dont Caroline Chaumeil, marseillaise, est à l'origine. D'emblée, lorsqu'elle a créé son site, elle m'a dédié un dossier. Donc, voilà, le site Passeurs d'alerte. Je remercie mon entourage, grâce à qui je tiens, dont je vis de leur charité, enfin, et de leur solidarité depuis des années. Et mes amis, j'en ai très peu maintenant, mais ils sont bien. Et ma fille aussi, qui a été très courageuse, parce que voilà.
Merci Françoise Nicolas.
Et Stéphanie Gibault et tous mes camarades lanceurs d'alerte qui sont confrontés aux mêmes situations que moi, de détresse. Les lois ne sont pas appliquées. La loi Sapin 2 est une forfaiture, une tartufferie.
Merci Françoise Nicolas. Et bien sûr, c'est le Bénin, pardon, qui me fait penser peut-être que Henri Thuyez, puisque là, on est en Afrique, et là, on voit des crimes du côté de l'administration française, mais quel est le rôle et quel est le travail de la plateforme des protections de lanceurs d'Afrique, d'alerte en Afrique, pardon.
Non, il n'y a pas de problème. Pour être plus simple, on a créé un acronyme, c'est PLAF. Donc vous pouvez juste dire PLAF, P-P-L-A-A-F. Et Charles Sanchez, c'est pas moi, il n'est pas là, il est au Burkina Faso. Donc je le remplace, je suis Henri Thuliez. J'ai créé PLAF avec l'avocat William Bourdon, qui a aussi créé Sherpa, et qui est l'avocat de nombreux lanceurs d'alerte, notamment Edward Snowden, Deltour, Hervé Fassiani, etc. Et moi, je travaillais sur l'Afrique depuis plusieurs années, lui aussi très engagé dans la lutte contre la corruption, notamment avec Anticor. Et il a compris que c'était par les lanceurs d'alerte qu'on arrivait à prouver de la meilleure façon possible tout ce qui se passe dans l'obscurité et dans l'ombre et qui arrange certaines personnes puissantes ou certaines multinationales. Et il se trouve qu'en Afrique, les flux d'argent opaque, les violations des droits de l'homme, sont peut-être plus développés qu'ailleurs, malheureusement, et que l'état de droit est bien souvent absent ou en cours de création. Et donc, on a considéré que si des lanceurs d'alerte devaient devenir lanceurs d'alerte en Afrique, il fallait qu'ils puissent se trouver une communauté d'experts qui soit à leur disposition. Et donc, c'est ce qu'on a fait en créant un réseau d'avocats internationaux et africains, un réseau de journalistes d'investigation, et un réseau d'ONG afin d'aider les personnes qui souhaitent donner l'alerte ou qui l'ont déjà donnée et qui ont besoin d'aide.
Ça peut être des alertes sur quel sujet, en fait ?
Ça peut être des alertes sur tous les sujets. Nous, on a une définition peut-être qui va paraître pour certains assez restrictive du lanceur d'alerte. Pour nous, il est clair que le lanceur d'alerte est une personne qui a été témoin de faits illégaux, illicites ou contraires à l'intérêt général au cours de leur activité professionnelle. Et c'est bien là-dessus qu'on insiste. Ce sont des personnes qui ont travaillé, par exemple, dans des banques ou qui peuvent travailler dans des armées ou qui peuvent travailler dans des boîtes d'audit, dans des ministères, dans des ambassades, etc. Et qui, donc, du coup, au cours de leurs activités professionnelles, vont être témoins d'activités illicites et vont refuser de courber les chines. Ils vont refuser de faire ce qu'on leur demande. Et nous, on est là pour les aider à dénoncer. Et du coup, on a quatre volets d'aide. D'abord, c'est une communication sécurisée. On a créé un portail, un site ultra protégé, un portail qui permet aux personnes de nous envoyer des documents. On a une hotline en français et en anglais pour répondre et aider et conseiller les lanceurs d'alerte ou les futurs lanceurs d'alerte. On fait également une assistance juridique, voire une défense juridique, voire une représentation juridique. Et je pense que c'est en fait là où on a trouvé la chose la plus importante, c'est que de nombreux lanceurs d'alerte refusent de donner l'alerte ou ont trop peur de donner l'alerte parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir couvrir des frais d'avocat. Donc on va les aider avec notre budget à payer des avocats quand c'est nécessaire dans certains pays où l'avocat est utile parce qu'il y a un état de droit. Évidemment, il y a des pays où il n'y a pas d'état de droit comme la République démocratique du Congo et on aide plusieurs lanceurs d'alerte de ces pays-là. Dans ce cas, il se trouve que eux, en général, on va les aider à sortir du pays ou une fois qu'ils sont sortis du pays, on va les aider à obtenir l'asile. Et après, on va les aider à transmettre l'information. Et ça, c'est le troisième point, c'est la divulgation. Donc on va prendre les éléments de ces personnes, ces documents, on va un peu enquêter nous-mêmes dessus, on va prémâcher le travail d'investigation pour après donner un élément plus complet à un journaliste d'investigation, à un média ou à une ONG qui va ensuite retravailler l'information et diffuser elle-même l'information.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret qui vous paraît marquant d'un type d'alerte que vous avez soutenu et aidé à protéger ?
Bien sûr, il y a, je vais parler d'une personne assez marquante qui s'appelle Jean-Jacques Lubumba, qui est l'arrière-petit-neveu de Patrice Lubumba, qui, lorsqu'il travaillait dans une banque à Kinshasa, la BGFI, a été témoin de malversations financières. En gros, on va vider le compte de la Commission électorale nationale indépendante pour qu'après le gouvernement puisse dire qu'il n'y a pas d'argent dedans, donc on ne peut pas organiser d'élection. Il a pu prouver que 42 millions de dollars de la Banque centrale congolaise avaient été détournés au bénéfice d'une société privée qui, elle-même, via des sociétés écrans, finalement achetait des animaux sauvages en Namibie pour finalement les emmener en RDC pour qu'ils puissent peupler la ferme privée du président Kabila. Donc on prend de l'argent public, on l'a fait passer dans une machine à laver et ça ressort pour avoir des beaux petits joujoux dans son jardin. Et ça, ça a été rendu possible grâce à quelques relevés bancaires, puis à l'enquête que nous avons menée ensuite. Et puis la dernière chose sur laquelle on travaille, c'est que aux autorités qui le veulent, on les aide à rédiger des projets de loi de protection des lanceurs d'alerte. On ne va pas nous-mêmes vers eux, c'est eux qui doivent venir vers nous parce qu'on ne va pas s'amuser à rédiger des lois si derrière elles ne sont pas exécutées, s'il n'y a pas de volonté politique. Et donc, par exemple, on soutient beaucoup des parlementaires nigérians pour l'adoption d'une telle loi parce que beaucoup de faits de corruption au Nigeria ont été divulgués grâce à des lanceurs d'alerte ces dernières années.
Merci beaucoup, Henri Tuiliez. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement le site internet qu'on puisse après vous le noter et aller voir demain
ou... Il y a quelques petites brochures ici.
Voilà,
le
donc
site
dehors.
Internet, c'est https, et j'insiste sur le S pour sécurité, /ppplaaf.org. Et sinon, on est sur Twitter et Facebook.
Aaf.org. Merci beaucoup. Merci. Alors là, on est toujours malversation, corruption, on arrive au crime. Fabrice Risoli, crime halt, quelle est votre démarche ?
Oui, merci beaucoup quand même aux organisateurs de m'avoir invité. Ça ne se voit pas, mais je remplace Stéphanie Gibault, en fait. Hein. Françoise Nicolas était bien sûr prévue. Je voudrais aussi, je vois que Karim est parti. Et si jamais il m'entend et qu'il est en train de se reposer quelque part, ou si quelqu'un le voit, ça serait bien qu'il revienne dans la salle, parce que j'ai quelque chose à lui dire après mon intervention. Donc merci aux organisateurs. Mais d'abord, un point d'actualité, n'est-ce pas ? Je prends la Provence de ce matin, qui fait un superbe truc sur les lanceurs d'alerte. Mais il y a aussi quelqu'un, là, qui semble faire de la politique. Il s'appelle Renaud Muselier. Alors, il dit... Parce que je crois qu'il a lancé l'alerte... Il dit le précédent mandat a été un mandat de cohabitation politico-mafieuse avec M. Guérini. Bien, bien, bien. Donc, alors, quel est le problème de prononcer le mot mafia, même s'il a été subtil, il n'a pas prononcé le mafia, il a dit politico-mafieuse. Quel est le problème ? C'est qu'il ne la définit pas, il ne sait pas ce que c'est, il n'a pas fait une thèse de sciences politiques sur les mafias italiennes comme moi. Bon, allez, voilà, comme ça c'est dit. Et surtout, qu'est-ce qu'il propose, le mec ? Hein, pour en venir à bout de ce truc-là. Eh bien, moi, je suis venu, et je suis content de passer après Françoise, Nicolas et Karim, etc. Moi, je suis venu avec la solution à tous vos problèmes. Ça, c'est la mafia. Donc, les corrompus aussi, etc. On leur saisit des biens, un appartement, un terrain, etc. Mais en France, on le revend. ça rentre dans les caisses de l'État. Alors c'est super les caisses de l'État, parce qu'on paye des profs, des routes, tout ça c'est super, des centrales nucléaires, on fait la guerre aussi. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il existe un pays spécial, l'Italie, qui a confisqué des centaines de milliers de biens et qui s'est dit maintenant qu'est-ce que j'en fais? Je peux pas les revendre aux mafieux. Oui, parce qu'aux enchères, qui c'est qui vient racheter les biens confisqués? Les mafieux. Ben oui, on sait. Enfin, leurs avocats, vous m'avez compris. Ou d'autres prêtres, non. Donc, l'État italien garde les biens. Alors, ce bien-là, qu'est-ce qu'il en fait? Attention, vous êtes prêts? Ça, c'est le bien de la mafia. Attention. Hop! Voilà, des jus de fruits bio faits par des coopératives sur des terrains confisqués à la mafia. Vous avez vu la différence? Mafia, jus de fruits bio. Je sais, je suis ridicule. Des taralis, des céréales, voilà. 9 coopératives agricoles qui font des millions de chiffres d'affaires en lieu et place de l'économie de la prédation que la mafia représente très bien, mais ce ne sont pas les seuls à faire ça.
Ils sont soutenus par l'argent que l'État italien tire de la vente des biens de la mafia?
Pas du tout.
Ah bon?
L'Italie a mis en place une confiscation révolutionnaire qui s'appelle la confiscation sans condamnation pénale du propriétaire. C'est-à-dire que les mafieux, ils sont malins, ils n'ont pas tous leurs biens à eux, hein, il y a des prête-noms. Donc le juge dit tout ça, c'est de la mafia, mais il ne fait pas un procès pénal à tout le monde. Il dit, celui qui tue, qui vend de la drogue, un petit procès pénal, c'est normal. Mais tous les complices vont devant un tribunal administratif où là, ils doivent faire justifier l'origine légale de leurs biens. Et ce n'est pas une inversion de la charge de la preuve, comme vous pouvez le penser, ça y est, je vois déjà. Non, pas du tout. Puisqu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir, en tout cas, c'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, bref, ils doivent justifier l'origine légale de leurs biens, exactement comme nous, on doit justifier nos revenus auprès des impôts, hein, je vous le rappelle, comme ça. Et puis nous aussi, chaque bien, on passe chez le notaire, on a une preuve qu'on l'a acheté légalement, patati patata. Donc on le fait, et ça fait des centaines de milliers de biens. Mais ces biens, on ne les revend pas. Donc l'État les garde. Eh bien. Les gardes, qu'est-ce qu'on en fait? Alors on en fait des super casernes de carabiniers, dans des villes dans le sud de l'Italie, la police, les carabiniers et la garde des finances ont tous leurs biens confisqués. Bon. Sauf que, vis-à-vis du rapport aux citoyens, pour changer les choses, parce que c'est lancer l'alerte pour agir, qu'est-ce que ça change du point de vue des mentalités? Ça restaure l'état de droit qui montre ses muscles, ok, c'est bien. Mais pour le citoyen qui n'a pas toujours confiance à l'État, celui qui fait la guerre, qui écrase les lanceurs d'alerte, qui protège les maîtresses des hommes politiques béninois, tout ça, tout ça. Eh bien non, il faut lui redonner un rôle aux citoyens. C'est extrêmement compliqué. Et c'est l'unique moyen d'impliquer les citoyens dans la grande criminalité au sens très large, hein, corruption, délinquance économique et financière, parce que c'est une prérogative régalienne. On ne va pas, nous, se mettre à la place des policiers et des juges et passer les menottes et faire des procès. Non. Donc le seul moyen d'avoir un rôle actif à la place de la criminalité, c'est d'en prendre le bien et à l'intérieur de faire du business pour faire du business, mais on peut aussi, bien sûr, prendre l'appartement de M. Guéant et en faire un centre d'accueil pour migrants. Vous voyez ? Puisqu'il a touché l'argent de fonds libyens. Enfin, ok ? Alors, il n'est pas encore condamné pour ça, mais il est quand même condamné en première instance pour un acte de corruption, etc., etc. Alors, vous pensez peut-être que là, il est fou, le Rizzoli, parce qu'il vient d'Italie, tout ça, c'est un truc qui n'est pas applicable en France. Bah, écoutez, le 22 décembre 2016, l'Assemblée nationale a voté un amendement pour que les biens confisqués, et il commence à y en avoir en France, soient redistribués à l'économie sociale et solidaire et aux associations. Super. Merci. Oui, mais sauf que le Conseil constitutionnel a retoqué l'amendement le 23 janvier 2017. Bon, dans sa grande sagesse, Conseil constitutionnel pas du tout politisé en France. Hein, c'est des magistrats très, très indépendants. Très... Oui, bien sûr. Donc, hop, hein, il retoque. Cavalier législatif, pour ceux qui connaissent. Bon, moi, ça ne me plaît pas du tout. Donc, je vous invite vraiment à vous mobiliser pour avoir une loi de ce type, car ça, ça peut vraiment changer les choses. Par exemple, la maison des lanceurs d'alerte. Hein, où Françoise peut recevoir des conseils juridiques, etc. Ce sur quoi travaille Transparency International, Anticor, etc. La maison des lanceurs d'alerte doit être dans le moulin de Giverny de Balkany. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est évident. Voilà. Vous voulez donner l'asile à Snowden? Oui, mais on va vous dire, oh, mais on va encore lui payer un appartement, ça va encore coûter de l'argent, etc. Eh bien, vous prenez l'appartement de Sylvie Andrieux, condamnée définitivement pour corruption à Marseille, par exemple. Bon, ne croyez pas que je ne suis dupe et que je suis complètement stupide. En fait, Madame Andrieux n'a pas, je crois, eu à souffrir d'une confiscation, car il y a un gros problème en France. Finalement, la confiscation n'existe pas beaucoup pour les délits d'atteinte à la probité. Ça commence à être assez efficace pour l'évasion fiscale, C'est vrai, c'est pourquoi je crois que les biens de Balkany sont considérés comme dans le procès, etc. Donc on peut, voilà, bon, ils sont déjà revendus, hein, ça c'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut appliquer cette confiscation parce que c'est la seule manière, nous, de nous récupérer de la dignité, de leur enlever ce pourquoi ils ont fait les actes qu'ils ont faits, et ensuite, nous, avoir un rôle dans ces biens.
Merci Fabrice voilà. Rizzoli. Et donc, voilà une arme juridique concrète, la confiscation des biens des personnes convaincues de malversation et de corruption.
Et l'utilisation sociale de leurs biens.
Et l'utilisation sociale de leurs biens. Merci beaucoup, Martin Pigeon, de l'Observatoire européen des lobbies. Alors, CEO, c'est un jeu de mots, parce qu'à Bruxelles, on parle anglais, donc Corporate Observatory Europe Observatory et CEO en anglais ou aux États-Unis, ça veut dire PDG. Donc, Martin Pigeon, vous êtes le PDG des...
Aucunement.
Voilà, expliquez-nous ça en 5 minutes aussi.
Merci. Merci pour l'invitation et pour les témoignages jusqu'à présent. Je ne suis pas un lanceur d'alerte. Pour ma part, je travaille sur l'influence politique des entreprises au niveau européen et j'ai la chance et le privilège d'être payé pour ça. C'est bizarre, mais ça existe, ce genre de métier. Quelque part, on pourrait considérer que je suis un genre de lanceur d'alerte, mais en fait, pas du tout, parce que moi, je ne prends pas de risque. En fait. Je ne dénonce pas mon employeur. Mon employeur me demande de faire ça. J'ai eu l'occasion de travailler sur la question des lanceurs d'alerte par le biais de la menace, en fait, par le biais de la directive européenne sur la protection des secrets d'affaires dont M. Alt a parlé avant. Et donc, je vais en parler un tout petit peu. Pour mettre ça dans le contexte, en fait, parce que aujourd'hui, on avait des discussions avec un certain nombre d'entre vous, et il y a une réflexion qui a été faite qui, moi, que je trouve très très importante, qui est que on a de plus en plus de lanceurs d'alerte, mais est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça pourrait pas aussi vouloir dire que la presse est en train de disparaître ? C'est un journaliste qui disait ça, je pense qu'il a raison. Le problème, c'est que les lanceurs d'alerte existent parce qu'il y a un vrai problème, et que dans un monde idéal, les lanceurs d'alerte n'existeraient pas. C'est important à souligner ça. Et donc, on peut éventuellement parler de la législation pour les protéger, on peut parler de la nécessité de les protéger, mais il faudrait quand même travailler sur les causes aussi qui font qu'ils existent et qu'il faudrait faire disparaître. En l'occurrence, si on regarde la directive sur la protection des secrets d'affaires, quelle est la justification politique de ce texte ? C'est de lutter contre l'espionnage industriel, c'est la guerre économique. Et c'est notamment la guerre économique avec des pays dictatoriaux, comme la Chine, la Russie... Et donc, il y a un lien qui est fait ici et que je voudrais faire, qui n'est pas forcément évident, mais qui est le lien avec la question des politiques commerciales. Parce que à partir du moment où vous créez un système de mondialisation où la concurrence est directe entre des entreprises européennes et des entreprises chinoises, la démocratie, la liberté d'information, les normes environnementales, tout ça, ça devient des coûts pour les entreprises européennes auxquels les entreprises chinoises, elles, rien à foutre. Ce n'est pas leur problème, parce qu'elles sont en dictature et que, notamment, il y a tout un tas de... Et en ce moment, vous avez des choses que moi, personnellement... Vous savez, Notre-Dame-des-Landes, grande victoire récente, vous avez un certain nombre d'arguments qui ont été dits pour... Mais c'est absolument un scandale. Regardez les Chinois, ils sont capables de construire un aéroport en 2 jours, une gare en 1 nuit, etc. Bah oui, l'aménagement urbain en dictature, ça va plus vite. Vous envoyez l'armée, c'est bon, problème réglé. Oui, mais je suis désolé, mais personnellement, moi, c'est pas du tout un modèle qui m'intéresse, la Chine, de ce point de vue-là. C'est un désastre environnemental, c'est un désastre de point de vue des droits sociaux, c'est un désastre de point de vue des droits humains.
Celui qui disait ça, c'est Éric Brunet, de RMC, qui appartient au groupe BFM, qui appartient à un grand financier.
Oui, il y en a quelques autres qui l'ont dit aussi. Ouais. Et donc, je voulais juste faire le lien, de ce point de vue-là, c'est que quand l'Union européenne, en l'occurrence, signe des accords de libre-échange avec et accorde, par exemple, à la Chine, ce qui est une immense victoire diplomatique pour ce pays-là, le statut d'économie de marché à l'OMC, ça augmente l'intensité de la guerre économique pour les entreprises européennes qui, du coup, se retrouvent comme ça en leur disant « Mais écoutez, vos lanceurs d'alerte, là, c'est un coup pour moi, ça ne va pas du tout, démontez-moi ça ». Et donc, c'est aussi pour ça faut comprendre que la directive européenne sur la protection des secrets d'affaires, c'est 2010-2011 pour l'initiation. Et les initiateurs de ce texte, qui étaient un groupe de multinationales, notamment françaises, Michelin, Safran, ce genre de trucs, ont en fait bénéficié d'un contexte particulier, qui était le contexte de la crise économique. Il fallait tout faire pour sauver le soldat Michelin, ou le soldat Safran, ou le soldat Alstom, ou j'en passe, c'est des meilleurs. Et il fallait le protéger contre la concurrence des méchants chinois, et éventuellement de la NSA aussi. Bon. Et donc, c'était juste un point de contexte, en fait, mais de dire que on ne peut pas imaginer une société démocratique saine dans une situation où les anges sont employés par des structures qui sont des dictatures, parce qu'une entreprise, d'un point de vue de structure de pouvoir, c'est largement une dictature, et qui, en plus, elles-mêmes sont dans un contexte de guerre totale avec leurs concurrents, où elles sont obligées de massacrer leurs facteurs de production, qui sont leurs employés et l'environnement dans lequel elles s'inscrivent, ou soit elles disparaissent. Il va falloir régler cette question aussi. Et donc voilà, c'est en gros, ce serait bien que l'Union européenne devienne une démocratie, ce serait bien que l'OMC soit soumise à un contrôle démocratique, ce serait bien que les politiques commerciales soient soumises à des injonctions démocratiques aussi. C'est facile, hein ?
Bon. Merci Martin Pigeon de nous avoir expliqué le lien entre les questions dont nous parlons aujourd'hui et le CETA, le TAFTA et l'autre projet de traité avec le Japon. Michèle Rivasi, députée européenne, fondatrice de CRIRAD, 5 minutes pour 4 minutes 30, comme les autres. Voilà. Est-ce que le lanceur d'alerte, au vu de votre expérience qui est à la fois très concrète et qui est de députée et là européenne, oui, voilà, comment vous abordez maintenant le problème, très concisément ?
Oui, alors je veux revenir aux origines et puis vous dire qu'il peut y avoir des lanceurs d'alerte heureux ou qui ont eu de la chance. Parce que rappelez-vous, en 86, nuage de Tchernobyl, l'État nous dit, ça a évité la France, il y a un stop, il y avait même le stop. Et là-dessus, il y a eu des citoyens quand même qui se sont dit, bizarre, les autres pays réagissent différemment, il faudrait en avoir le cœur net. Et on fait des prélèvements, et on s'aperçoit qu'il y avait tous les radioéléments de Tchernobyl. Et là, c'est le déclic. Vous voyez, tout à l'heure, on se disait, c'est quoi qui déclenche ? Ce qui déclenche, c'est de se dire, maintenant que je sais, est-ce que je garde l'information pour moi, pour protéger ma famille, ou est-ce que je le dis à l'extérieur ? Et le fait de le dire à l'extérieur, c'est un changement de votre vie. Et c'est là où le déclencheur pour un lanceur d'alerte, c'est très dur. Parce qu'il y a toute votre vie qui change. Parce que ces conférences de presse, quand ces conférences de presse, vous êtes attaqué, vous êtes menacé, vous êtes obligé de mettre vos gamins chez vos parents parce que sinon, vous n'êtes pas sûr de les retrouver, etc., etc. Et pourquoi il faut une loi sur les lanceurs d'alerte ? Parce qu'il y a un accompagnement, il y a même psychologiquement, il faut aider les lanceurs d'alerte. Moi, la chance que j'ai eue, c'est d'être un groupe de personnes et de se dire... Le meilleur moyen, à partir du moment où on a l'information, grâce à des scientifiques au début, hein, où on faisait les mesures, c'est qu'on a créé la CRIRAD. La CRIRAD, c'est un outil incroyable. C'est un petit miracle, la CRIRAD. On est parti de rien. Avec quelques personnes et quelques journalistes, d'où l'importance des médias pour le prochain atelier, s'il n'y avait pas eu des Michel Pollack, ou quand j'intervenais... Je pouvais dire, si vous nous aidez financièrement, on pourra créer la CRIRAD, parce que c'est des appareils qui coûtent entre 30 et 40 000 euros. Si vous ne faites rien, vous êtes complice de la situation. Et Pollack, il disait, ben, aidez là, j'avais 28 ans à l'époque, aidez la CRIRAD, tout ça. Et à la sortie, Pollack, il me dit, tu sais, les Français, c'est des veaux. Je me suis, mais rappelez-vous, sur le pont de Ré, etc., il intervenait, ils ne suivent pas. Eh bien, 15 jours après, on a reçu 45 000 euros de chèques. Et grâce à ça, on a pu acheter la première chaîne de spectrométrie gamma. Et grâce à ça, on avait des appareils qui étaient plus performants que ceux du CEA à l'époque, et d'Areva et du SCPRI. Et là, on a pu faire des mesures. On avait le soutien de l'IBE, je sortais des mesures toutes les semaines, etc. C'est un boulot dingue. Mais alors, votre vie de famille, bonjour. Votre vie de beaucoup, bonjour. Enfin, c'est tout ça qu'on paye. Et quand on dit qu'il faut une protection alors juridique, moi, c'est grâce quand même quand il y a eu cette association, parce qu'attaqué après en diffamation, on a eu plus d'une dizaine de procès. Et les procès, vous savez ce que c'est ? Le prix des avocats, alors je n'ai pas d'avocat ici, mais ça coûte une fortune. Le fait qu'il faut faire les dossiers pour les avocats parce qu'ils ne connaissent rien sur la radioactivité, etc. Donc c'est un boulot dingue. Mais il y a les citoyens. Et vous voyez, quand je me suis présentée en 97, élection législative, Jospin qui dit qu'il faut 30% de femmes, merci à Jospin d'ailleurs, hein, et le PS qui me dit on n'a pas de femmes, donc ça serait pas mal que tu viennes. Et les Verts me disent oh ben ça serait bien que tu viennes. Je dis oui, mais moi je suis pas adhérente ni chez les Verts ni au PS. Eh ben les gens m'ont élu à 33 voix, j'ai gagné. C'est les gens, c'est les citoyens. Si vous voulez, c'est ça qui a fait qu'en lanceur d'alerte, j'ai pu aller à l'Assemblée nationale et j'ai vu alors là les dysfonctionnements de l'Assemblée nationale où c'est pas la vérité. Alors tu dis c'est vrai ce que tu dis, mais en même temps le fruit est pourri. Hein, oui, quand tu parlais d'oligarchie, mais c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on ne veut pas partager le pouvoir. On me disait, t'intéresser à avoir un rapport sur la radioactivité, mais non, il y a d'autres députés qui s'en occupent, tu feras de la bioéthique. Et il faut se bagarrer, et encore une fois, le pouvoir, c'est les journalistes qui nous le donnent. Et puis sur le plan européen, on veut faire une directive sur les lanceurs d'alerte. Alors c'est vrai que ça ne plaît pas aux multinationales, parce que ça permet de donner un statut juridique, un statut, si vous voulez, de protection. Et on voudrait une protection financière. Parce que quand on est tout seul, mais on est mort, et puis on peut vous tuer. Il y a un tel rapport de force. Moi, je vois, mais ça m'a donné une énergie renouvelable dingue. Vous voyez, que ça soit la vaccination, on me dit ça ne se discute pas. Mais si, ça se discute. Alors, vous êtes mis à l'écart parce que vous osez parler de sujets tabous. Mais après, sur les effets secondaires des médicaments, eh bien, si, on va s'en occuper. Et sur l'énergie et le nucléaire et Bure, eh bien, si, la ZAD, il n'y en aura plus à Notre-Dame-des-Landes, eh bien, on va la faire à Bure. Il faut se bagarrer. C'est comme ça qu'on y arrive. Mais ça veut dire... Et je finirai là-dessus. C'est que... Moi, je me bagarre sur le plan législatif, c'est-à-dire que je veux des organismes de surveillance corrects. Vous voyez, pas de conflit d'intérêts. Vous savez, les épidémies de conflit d'intérêts, ça existe en France. Bon. Mais il faut des contre-pouvoirs, parce que je ne ferai jamais confiance à l'État. On peut les améliorer, mais il y a des raisons d'État. Et là, on a besoin de contre-pouvoirs, qu'ils soient médiatiques, qu'ils soient comme la CRIRAD, qu'ils soient comme le CRIREM, qu'ils soient, vous voyez, des laboratoires indépendants. Mais pour ça, il faut vous bouger, vous. Il faut les soutenir. Et je vous donnerai un dernier exemple, et je finirai là-dessus, parce que c'est l'alerte à l'action. Regardez, il y a un nuage de ruthénium-106 qui est sur l'ensemble de l'Europe. On se demande d'où il vient. On fait des modélisations, on nous dit « Oh, c'est entre l'Oural et la Russie et l'Azerbaïdjan, peut-être dans ces coins, le Kazakhstan, enfin, on ne sait pas. » Là-dessus, je demande tous les États, qu'est-ce qu'il en est de ce ruthénium ? « Oh, mais c'est des millibécquerels, c'est pas grave, il n'y a pas de problème sanitaire. » Bon, on fait une modélisation, l'IRSN, vous savez, notre fameux IRSN, qui nous dit « Ah oui, mais alors attendez, avec les niveaux qu'on a, si on fait une modélisation pour les gens qui sont autour, mais c'est catastrophique, il faut qu'ils soient évacués. Ils ne peuvent rien consommer. Mais on ne sait pas où il est. » Alors, j'interroge la Commission européenne. Je leur dis, avec toutes les centrales, on a 142 centrales quand même en Europe. Comment se fait-il qu'on n'ait pas accès à l'info ? Ah, mais c'est les Russes. On écrit à l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie nucléaire, qui dit, ah, mais ce n'est pas notre domaine. Donc, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vigilance citoyenne. Donc, ça veut dire que demain, vous allez mettre 10 euros tous. Hein ? Vous allez l'envoyer à la CRIRAD. Et ce qu'on va faire avec ça, il nous faut à peu près 30 000 euros. Et bien avec 30 000 euros, il y a toute une équipe qui va partir en Russie, qui va regarder autour de Mayak, etc., et qui veut savoir d'où vient ce ruthénium 106. Et bien c'est ça, de l'alerte à l'action. Voilà, une action.
Alors, est-ce que vous avez une ou deux questions concises ? Personne n'a rien à dire. Si, madame, là-bas, et après, ça sera monsieur avec un béret. Alors, madame, derrière, s'il vous plaît.
Oui, c'est simplement par rapport à madame Michèle Rivasi. J'ai entendu parler que vous étiez en train d'essayer de construire une CRIRAD par rapport au problème des vaccins. Est-ce qu'éventuellement, vous pouvez nous donner quelques repères par rapport à cette initiative ?
Je suis toujours dans le CRI, vous n'avez pas remarqué ? Ouais. CRIRAD, CRIREM. Il y avait aussi le CRIGEN, hein, qu'a créé Corinne Lepage. Et là, ce serait CRIVAX.
parce que vous, maintenant, depuis le 1er janvier, c'est l'obligation vaccinale. Sauf qu'en parallèle, ils diminuent la pharmacovigilance. Ils veulent fermer certains centres régionaux. Et donc, les effets secondaires de cette vaccination vont être beaucoup plus difficiles à voir. Et là, il y a plusieurs scientifiques qui sont prêts. Donc, ça, on va créer le CRIVAX, là, dans les semaines qui viennent, pour analyser toutes les études sur les essais cliniques de chacun des vaccins et voir s'il n'y a pas des signaux dans certains pays européens et notamment à l'Agence européenne des médicaments. Voilà. Donc, c'est en cours.
En s'appuyant, entre autres, sur un scientifique qui s'appelle Romain Gérardi, qui est un chercheur universitaire qui travaille, par exemple, sur la question
de l'aluminium.
De l'aluminium dans les vaccins. Merci de cette réponse très concise. Alors, monsieur, vous avez le micro et après, ça sera monsieur devant. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît.
Donc, bonsoir et merci de vos interventions très riches en enseignement. Pour notre citoyenneté, au fait. Parce que ce que j'entends, moi, c'est qu'on a oublié, au fait, qui on était. Et la capacité, le pouvoir qu'on a et individuellement et collectivement. Pour en revenir au collectif, moi, ce qui m'intéresse dans vos interventions respectives, c'est que je me pose la question aujourd'hui de comment on pourrait vous aider concrètement et juridiquement par rapport à une action de groupe. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des actions de groupe qui sont possibles. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de citoyens qui sont en capacité d'être les garants d'une action en vue de la protection d'un lanceur d'alerte, par exemple. Pourquoi c'est pas assez, c'est pas promu et pourquoi c'est pas possible ? Est-ce que c'est possible ? Ou sinon, est-ce que c'est possible juridiquement ?
Voilà, comment, en tant que citoyen, on peut aider à travers une action de groupe, mais juridiquement, est-ce que c'est possible ? J'ai l'impression que c'est Eric Halt d'Anticor qui pourrait répondre. Michel, tu parles beaucoup, mais peut-être quelqu'un d'autre. À moins que personne n'ait de compétences, mais je dirais que Eric Halt a peut-être...
Alors, pour techniquement, voilà. L'action de groupe n'est pas possible pour soutenir un lanceur d'alerte, elle n'est même pas possible aujourd'hui pour des affaires de corruption. En revanche, ce qui est tout à fait exact, c'est que les citoyens peuvent faire quelque chose. Et d'ailleurs que la loi lanceur d'alerte n'est qu'un socle sur lequel va se développer un combat culturel. Et ce combat culturel pourrait prendre notamment la forme de la constitution de maisons de lanceurs d'alerte. Et donc, en soutenant ou en vous joignant à ce projet, effectivement, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin que ne le permet aujourd'hui le simple dispositif juridique qui est la loi Sapin 2.
Allez, un mot très court pour Michel.
Oui, parce que c'est plutôt des actions sur des sujets. À l'heure actuelle, il y a deux actions de groupe. Une sur le lévothyrox. Il y a 3500 dossiers là, jetés à Strasbourg là, pour soutenir tous ces gens qui sont offusqués par l'attitude du ministère de la Santé. Et sur le Linky, il y a plein d'actions de groupe. Là, vous pouvez intervenir en tant qu'action de groupe. Par contre, sur le lanceur d'alerte, c'est différent. Hein, c'est pas la même. Sur un objet, un truc comme ça, vous pouvez vous regrouper puisque la loi le permet à l'heure actuelle.
En fait, c'est quand on est victime qu'on peut se joindre à une action de groupe, c'est ça. Et là, l'idée, c'est peut-être de faire plus et de soutenir de l'extérieur, même si on n'est pas soi-même concerné, si j'ai bien compris. Et là, un peu la réponse qu'a donnée Eric Halt. Et on peut ensemble agir. Et là, c'est un bout de la réponse, c'est le projet de la maison des lanceurs d'alerte. Alors, il y avait une question là, je crois, monsieur. Non ? Oui, alors, allez-y, et après, il y aura monsieur là.
Bon, ma question porte sur la qualité de l'information dont on dispose. Je pense qu'il y a quand même un vague rapport avec le sujet. Il y a quelques jours, j'ai entendu un sondage. Ce sondage concernait la crédulité des Français par rapport aux thèses conspirationnistes. Et dans ce sondage, on mettait côte à côte ceux qui croient que peut-être Kennedy n'a pas été assassiné par un seul homme, ce qui me paraît éminemment plausible. La croyance en la platitude de la Terre et le scepticisme concernant la vaccination. Alors, j'ai été un peu consterné, un peu dégoûté. Je me suis dit, c'est du journalisme poubelle, ça. Mais en fait, je n'ai pas fait attention. Après, je me suis dit, mais ça vient d'où ce genre de sondage ? Qui est-ce qui a intérêt à sortir ce genre d'informations ? Alors peut-être que je suis victime, moi aussi, d'une théorie conspirationniste, là. Mais qu'est-ce qui, selon vous, et qu'est-ce qui pourrait me renseigner sur ce flot de...
Alors, j'ai l'impression que c'est presque une question pour la table ronde suivante, mais est-ce que quelqu'un a un élément de réponse ? Non. Tout ce qu'on peut dire, c'est quand on interroge un sondage, ce n'est pas un sondage qui interroge les Français, c'est un sondage qui impersonne 1000 personnes. Et c'est un échantillon de 1000 personnes qui répondent.
Mais c'est une manipulation. Et donc, c'est de dire, voyez, vous êtes contre la vaccination, mais c'est des fake news. Vous faites partie des complotistes qui pensent que Kennedy n'a pas été assassiné. Ou de l'attentat à New York. Vous voyez, il y a des gens qui le remettent en question. Et donc, ils mettent sur le même plan des choses qui n'ont rien à voir. Voilà, mais je trouve ça très grave, parce que c'est de la manipulation, que ça sorte à la télé en plus, voilà.
Martin Pigeon, voilà. Un mot là-dessus, peut-être ?
Bon, si vous me le demandez, juste, pour moi, la seule question à se poser, c'est qui a commandité ce sondage-là ? Enfin, c'est juste une question de recherche, quoi.
Allez-y, monsieur.
Oui, alors, le combat de tous les lanceurs d'alerte, finalement, c'est une demande de transparence, et en fait, finalement, c'est ça le vrai problème, c'est qu'on manque de transparence dans tous les services, on va dire, d'État ou de renseignement. Et du coup, voilà, on en est où niveau demande de transparence politique ? Puisque c'est un peu votre combat, finalement.
Peut-être un peu, mais peut-être pas non plus. Je vais vous donner un exemple qui est tiré de mon propre travail. Moi, je travaille beaucoup sur l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui rassemble des comités d'experts qui évaluent la dangerosité ou pas des produits qui sont mis sur le marché. Il y a un vrai problème de transparence ici, c'est que cette agence se base sur des données qui lui sont fournies par les industriels, parce que c'est la loi. Les industriels doivent démontrer l'innocuité de leurs produits. Ça leur coûte très cher, et donc ils ne veulent pas que ces données soient publiées. Ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que les scientifiques indépendants, par exemple, ne peuvent pas auditer et donc vérifier la véracité et la qualité de ces données-là. Et donc, ils ne peuvent pas... Donc, c'est assez terrible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les données qui sont utilisées pour justifier la mise sur le marché et donc la consommation d'un produit ne sont pas auditables. Un scientifique indépendant ne peut pas les vérifier. Ça, c'est un problème. Dans le même temps, vous voulez aussi préserver l'intégrité du travail de cette agence-là. Et donc, le problème, c'est qu'avec ces histoires de transparence, on mélange beaucoup de choses. Et l'industrie agroalimentaire s'intéresse, elle aussi, beaucoup à la transparence, mais elle s'intéresse à la transparence des processus. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir surveiller ce que fait l'agence, pas à pas, comme ça, pour être sûr que l'agence va dans son sens. Et le problème, c'est que l'agence, dans un souci compréhensible, en tout cas, de sauver, de défendre sa réputation, qui n'est déjà plus très, très, très bonne, essaye comme ça de s'ouvrir autant que possible. Et donc, elle a ouvert, par exemple, les réunions de ces panels à des observateurs, à quiconque veut venir. Ben, vous regardez qui y a parmi ces observateurs. À 94%, ce sont des lobbyistes de l'industrie. Et donc, la transparence, ce n'est pas une valeur. C'est un outil. C'est un outil de mise en responsabilité. Et c'est très important de se souvenir constamment de ça. Parce que la vie privée, c'est un droit aussi. Et c'est même une nécessité pour beaucoup de choses. Donc voilà, la transparence, oui, mais faites gaffe.
Un mot très court de Fabrice Risoli avant la dernière question.
Vu ce que je traite, la grande criminalité, alors corruption, délinquance économique et crime organisé, il y a quand même un truc qui est important pour le citoyen qui s'appelle une décision de justice. C'est bien gentil, là, parce que je fais le lien avec la fake news, avec un politique de haut rang qui accuse un autre politique de système politico-mafieux. Mais il se base sur quoi ? Sur quelle étude sociologique ou sur quelle décision de justice ? En l'occurrence, Guérin n'a même pas eu son procès. Alors c'est quand même un peu gonflé. Mais ceci dit, il y a quand même des éléments, mais à condition d'avoir le rapport d'enquête, etc. Là, du coup, on n'est pas à un fake news. Mais quelqu'un a-t-il essayé de trouver déjà une décision de justice qui concerne le crime organisé ? Mais c'est impossible. Il faut aller au greffe du tribunal, il faut monter très très gentil, etc. J'ai essayé à Marseille, il a fallu que je passe des barrières à n'en plus finir pour que la grévière en chef descende, me fasse remplir un papier, m'oublie pendant 6 mois, que je refasse un courrier, que finalement il me dit « si vous la voulez, on vous l'envoie par photocopie, il faut m'envoyer 40 euros ». Des mois et des mois pour avoir quoi ? Un truc qui est rendu au nom du peuple français. Les procès sont open. Quand je suis allé demander, le premier truc que m'a donné la greffière, c'est pourquoi ? Et même parmi les magistrats les plus conservateurs que je connais, quand je leur donne mon expérience, ils me disent « Elle n'avait pas le droit de te demander pourquoi. Tu veux une décision de justice au nom du peuple français ?»
Il y a aussi une question de culture de la transparence au sein de l'appareil d'État, qui est effectivement, en principe, l'émanation de la souveraineté populaire. Merci à tous, merci à Françoise Nicolas, merci à Pierre Le Thuillez, merci à Eric Alt, merci à Martin Pigeon, merci à Michel Rivasi, merci à Fabrice Risoli. Et Henri Thuillez, pardon.